Évangile selon Luc, chapitre 5, et au verset 32. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Lirons ensuite dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, et au verset 4. Méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais selon ta dureté, selon ton cœur, sans repentance, tu amasses pour toi-même la colère dans le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3, Actes des Apôtres, chapitre 3, et au verset 19. Repentez-vous donc et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement devant la face du Seigneur. Et nous continuerons toujours dans les Actes des Apôtres au chapitre 26 et au verset 16. On peut déjà commencer à la fin du verset 15. Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu afin de te désigner pour serviteur et témoin, et des choses que tu as vues et de celles pour la révélation desquelles je t'apparaîtrai, en te retirant du milieu du peuple, des nations et des nations vers lesquelles moi je t'envoie, pour ouvrir leurs yeux, pour qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent la rémission des péchés et une part avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. » Voilà, nous arrêterons là pour cette première réunion. Il est évident que chacun qui présente quelque chose peut ajouter d'autres versets. Il y en a de nombreux qui parlent de ce sujet-là.
Vous avez choisi un bon titre pour cette conférence aujourd'hui, le travail de Dieu ou les œuvres de Dieu. Et j'aimerais justement lire un verset dans l'Apocalypse au chapitre 15, où il est question des œuvres de Dieu. Et là, nous lisons Apocalypse 15, verset 3, au milieu, « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres. » Et c'est vrai, le travail de Dieu, c'est toujours merveilleux et grand. Et nous contemplons les œuvres de Dieu. On peut distinguer, il y a une œuvre de Dieu hors de nous, faite pour nous, mais hors de nous, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie à la croix, c'est une œuvre hors de nous, mais pour nous. Et c'est le Seigneur Jésus qui a accompli cette œuvre. Il y a deuxièmement un travail de Dieu en nous, au-dedans de nous, et c'est ce que nous considérons aujourd'hui, par exemple, la conversion, la repentance, c'est une œuvre de Dieu en nous. Il y a troisièmement une œuvre de Dieu avec nous, ce qu'il fait avec nous, par exemple, en Éphésiens 2, nous lisons que nous sommes ressuscité avec le Christ, nous sommes vivifiés avec le Christ, nous sommes même assis dans les hauts lieux avec Christ. C'est aussi une œuvre merveilleuse de Dieu avec nous. Et il y a quatrièmement aussi un travail de Dieu par nous, dans la puissance de l'Esprit Saint. Oui, toutes les œuvres de Dieu sont merveilleuses. Nous les voyons et nous sommes heureux que Dieu a fait un tel travail. Hors de nous, mais pour nous, en nous, avec nous et par nous. Et aujourd'hui, nous aimerions, dans cette première réunion, considérer cette œuvre de Dieu, ce travail de Dieu, la repentance, la conversion, et on pourrait même ajouter un troisième trait, c'est la confession. Mais combien important, et nous allons considérer les détails, la conversion ou la repentance d'abord, et la conversion.
Peut-être juste lire encore trois versets. Le premier dans le livre des Actes au chapitre 17, au verset 30, verset bien connu. Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent, parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée par l'homme qu'il a destiné à cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous l'ayant ressuscité d'entre les morts. On voit que ce côté de la repentance, c'est un ordre de Dieu. Dieu ordonne. Il ne laisse pas le choix. Ordonne à tous les hommes de se repentir, sans quoi il y a le jugement. Montre bien l'importance de ce côté-là. Dieu ordonne que tous les hommes se repentent. Le second passage, la page suivante, en acte 20, au verset 21, l'apôtre Paul qui parle aux anciens d'Éphèse, et il leur dit au verset 20, « Je n'ai rien caché des choses qui étaient profitables, en sorte que je ne vous eusse pas prêché et enseigné publiquement et dans les maisons, insistant et auprès des Juifs et auprès des Grecs sur la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » La prédication de Paul, publiquement et dans les maisons, c'était la repentance. Il avait insisté, il insistait sur ces deux choses, la repentance et la foi. Les deux choses sont liées, la repentance et la foi. L'un ne va pas sans l'autre. Et l'apôtre Paul insistait sur ces choses-là. Dernier passage en Luc 15. Au verset 6 au milieu, le Seigneur qui dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis perdue. Je vous dis qu'ainsi il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Verset 9 au milieu, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Ainsi, je vous dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Le troisième paragraphe sur le fils prodigue, c'est aussi la repentance du fils prodigue. Les trois choses étaient perdues, la brebis, la drachme et le fils. Et les trois sont retrouvés parce qu'ils sont venus à la repentance et à la foi. C'est le chemin de la bénédiction, la repentance et la foi.
Dans le premier verset qu'on a lu, en Luc 5, verset 32, on a lu « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à la repentance. Pas forcer, mais appeler. C'est la parole de Dieu qui fait un appel dans le cœur. Mais il y a quelque chose très important ici, pécheur. Dans la ville où j'habite, je suis assez bien connu. Et quand je commence à parler un peu avec les gens, ils me disent « Arrête, tu vas bientôt me convertir ». Ils savent, tout le monde sait bien ce que c'est un pécheur, mais personne veut reconnaître qu'il est un pécheur. Mais c'est ça qui est très important. Reconnaître et savoir qu'on est un pécheur. C'est le début pour trouver la paix avec Dieu.
Les passages que nous venons de lire et les remarques des frères jettent beaucoup de lumière déjà sur ce que c'est la repentance. J'aimerais juste ajouter trois points. Le premier, c'est que la parole nous parle de plusieurs personnes ou groupes de personnes qui se repentent. Tout d'abord, c'est Dieu. Dans un sens, il ne se repent jamais. Psaume 110, verset 4. Dans un sens, il se repent. Il se repent quand l'homme a changé, pour le bien ou pour le mal. Deuxièmement, bien sûr, il y a le pécheur qui doit se repentir. Troisièmement, il y a aussi des exemples dans la parole où il y a des croyants qui se repentent. Et quatrièmement, il y a aussi des assemblées qui se repentent. Cinq des sept assemblées dans Apocalypse 2 et 3 sont appelées à se repentir. Alors toutes, sauf Smyrne et Philadelphie. Alors je crois que l'accent pour cette conférence, c'est sur le deuxième cas, la repentance, si j'ai bien compris, la repentance du pécheur, mais seulement pour distinguer ces différents cas. Deuxième point, qu'est-ce que c'est la repentance? Le plus souvent, on va aux études, le plus prudent on devient avec les définitions. Parce qu'il y a toujours d'autres définitions. Mais j'essaye quand même. Je comprends à partir de la parole que la repentance implique un changement de pensée. Mais surtout dans le deuxième cas, dans la repentance du pécheur, il faut peut-être ajouter que ce n'est pas seulement un changement de pensée. Mais c'est lié avec un jugement sur soi-même, sur ses actes et son état, dans la lumière de Dieu et dans la connaissance que Dieu est bon, que Dieu est amour, que Dieu veut me bénir. Dans cette lumière, je reconnais, je dois me juger. Troisième point, avec la repentance, il y a deux côtés que les frères ont déjà soulevé un peu. Les deux premiers passages que nous avons lus nous montrent bien ces deux côtés. Dans Luc, et d'ailleurs aussi dans Actes 17, c'est le côté de l'homme. Nous sommes appelés à nous repentir, et Dieu a même commandé. C'est notre responsabilité. L'autre côté, on a lu aussi, Romains 2, c'est la bonté de Dieu. S'il nous a donné que nous nous sommes repentis, c'est aussi un effet de la bonté de Dieu qui nous a amenés à discerner dans sa lumière ce que nous sommes et la nécessité de la repentance.
Il me semble pas mal important de souligner que le début de l'œuvre de Dieu dans l'âme, c'est de constater son état. C'est quelque chose que Michael a déjà expliqué. Je le trouve aussi au l'évangile de Luc, chapitre 15, dans cette histoire du fils prodigue. Et je lis le verset 17. Qui commence, Luc 15, verset 17, « Et
étant revenu à lui-même, c'est le début. Comment cela arrive? C'est déjà une œuvre que l'Esprit de Dieu commence à faire dans l'âme. Revenir à soi-même. Et après, il est dit au verset 17 à la fin, je péris ici. Ça, c'est de constater la situation dans comment je me trouve et que je peux pas m'aider moi-même. Il est nécessaire d'accepter que j'ai besoin d'une aide qui est hors de moi-même. C'est déjà aussi relaté avec la foi. Accepter ce que Dieu dit de mon état dans le péché, accepter que je peux pas m'aider moi-même, accepter qu'il y a une aide hors de moi-même. Et ça, c'est le plus grand problème pour beaucoup de monde, parce que nous vivons dans une société qui dit que tu es bon, tu peux t'aider toi-même, tu dois faire des choses, des œuvres toi-même, et tu arrives à te sauver. Alors, c'est le premier moment qui est très important. Et la repentance, c'est de l'accepter, le vu de Dieu sur mon état.
Peut-être continuer un petit peu. Deux remarques. D'abord, on a rappelé la bonté de Dieu te pousse à la repentance. On a vu l'histoire, on voit l'histoire du fils prodigue. Extérieurement, c'est sa détresse, c'est ses privations, c'est la situation difficile dans laquelle il se trouve qui l'amène à revenir à lui-même. Mais cette détresse, cette situation, c'est en fait la bonté de Dieu qui s'en sert pour opérer un travail en lui. La bonté de Dieu, ça veut dire que quelquefois Dieu est obligé de peser sur notre âme, sur l'âme du pécheur, de peser sur lui pour l'amener à ce travail de repentance. Et le travail de repentance, c'est pas simplement des regrets, c'est pas le fils prodigue, il n'est pas revenu vers son père en disant « Écoute, j'ai faim, j'ai raté ma vie, j'ai faim, maintenant il me faut à manger. » Il est revenu vers son père en disant « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. » C'est-à-dire que la repentance, c'est pas seulement prendre conscience d'un besoin, mais c'est prendre conscience aussi de notre état devant Dieu et prendre conscience que c'est à Dieu que nous avons affaire. On aimerait bien, quelquefois, on dit « mais j'ai beaucoup de problèmes, et ben il faudrait que Dieu arrange ma vie ». Mais c'est pas ça la repentance. C'est « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi ». Et puis, je rappelle aussi un autre verset dans le livre des Actes et qui peut aussi s'inscrire dans le prolongement de ce qu'on vient de dire. Actes au chapitre 2, c'est la première prédication de l'apôtre Pierre et il conclut, acte 2, verset 36, que toute la maison d'Israël, donc, sache certainement que Dieu a fait et Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et, ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur saisi de compunction. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous, frères? Et Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés. On a dit que cette repentance, c'est en quelque sorte un changement de pensée, un changement d'état d'esprit. Voilà que ces Juifs sont placés devant quelque chose qu'ils n'avaient pas réalisé. C'est que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus qu'ils avaient crucifié. Et on peut dire que toute leur pensée, la façon dont ils pensaient à Christ est tout à coup bouleversée, parce que maintenant ils voient que c'est le Seigneur. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont d'abord le cœur saisi de compunction, ils ont le cœur serré, ils ont le cœur étreint. Ils sont troublés au plus profond de leur cœur. Mais est-ce que cela suffit? Il faut aller plus loin. Que ferons-nous? Alors c'est la question que notre frère a dit tout à l'heure, on voudrait faire. Non, que ferons-nous? Et Pierre lui dit, eh bien, repentez-vous. C'est-à-dire qu'il suffit pas simplement Du côté du fils prodigue, il suffisait pas simplement de penser qu'il avait faim, qu'il avait raté sa vie. Il fallait qu'il aille vers le Père. Ici, repentez-vous, il s'agit pas seulement d'avoir le cœur serré, de se dire, mais quelle grande misère. Et nous nous sommes trompés, mais il faut faire encore cet autre pas, repentez-vous, c'est-à-dire revenez à Dieu avec cela, revenez vers Dieu. Et non seulement cela, mais cette repentance, elle va se traduire pratiquement, ils vont être baptisés et ils vont être baptisés au nom de Jésus-Christ en rémission de péché. C'est-à-dire que la repentance, c'est pas la componction, c'est le premier travail peut-être que fait Dieu dans le cœur d'un homme. L'amener à sentir qu'il est malheureux, qu'il y a quelque chose dans son cœur qui n'est pas réglé. Mais la repentance, ça l'amène à le régler avec Dieu, devant Dieu, et en reconnaissant que il est pécheur et que le Sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Dans la repentance, il y a deux volets, comme on vient de le dire. Il y a le constat, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et il y a le changement de conduite ou le changement de vie, changement d'état d'esprit. Dans les nouvelles traductions de la Bible, on emploie parfois seulement le mot de changement de conduite. Mais on pourrait dire que cela n'est pas suffisant. C'est certain que ce n'est pas suffisant. Lorsqu'on prend quelqu'un qui a fait une faute pénale ou une faute grave, tant qu'il n'est pas passé devant la justice, tant qu'il n'a pas eu la réalisation de l'équivalent de la faute qu'il avait faite, il est toujours en attente de jugement. Le fait de changer de vie ne fait pas que le jugement a été réalisé. Le fait de faire le constat et d'accepter que le Seigneur Jésus est mort pour nous, le jugement a été réalisé. Et alors, le changement de vie va devenir naturel. Parfois, il y a des changements extérieurs seulement, mais la repentance n'est pas complètement réalisée. On change peut-être de vie, on essaye d'améliorer l'extérieur, mais si le constat n'a pas été fait, la repentance complète n'a pas eu lieu.
On aime toujours parler de Luc 15, le fils prodigue. Mais il y a aussi d'autres personnes. Il n'y a pas tout le monde qui est sur le faux chemin, qui trouve le Seigneur. Si nous voyons, par exemple, en acte 8, où nous voyons l'Égyptien, lui qui était à Jérusalem, il était là pour chercher quelque chose, peut-être pour son pays, mais entre autres, il avait trouvé une partie de la Bible. Et lui était en train de lire la Bible. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené quelqu'un, et Philippien, l'évangéliste, lui demande, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu fais? Où tu vas? Je pense surtout pour nous, dans la vie, nous sommes dans différentes situations. Et nous devons toujours et partout, à chaque moment, être prêts à jeter quelque chose pour que quelqu'un commence à réfléchir. Parfois, nous devons dire, c'est un péché, c'est mauvais, tu ne peux pas faire ça. Mais pas toujours. L'amour de Dieu se manifeste par différentes manières. Mais la manière est toujours amener une âme au Seigneur Jésus. Ça, c'est le plus important. Et si cette âme est devant le Seigneur, il devrait comprendre, c'est notre prière, et surtout, si nous finissons une journée et nous regardons qu'est-ce qu'on a fait de cette journée, ce mail, ce téléphone, là j'ai été, mais combien de personnes j'ai vraiment parlé du Seigneur Jésus? Et alors, mettre cette personne dans la prière. N'oubliez jamais de prier pour les gens avec lesquels et pour lesquels vous avez parlé du Seigneur Jésus. C'est très important de prier pour ce dialogue. Et nous avons besoin de beaucoup de sagesse, de savoir, peut-être nous sommes dans le train, quelqu'un de très important, de la politique, assis à côté de nous, il a l'air d'être
serviable pour le pays, pas de problème, mais à ce moment-là, quand même créer une question, ou je sais pas, quelque chose, pour qu'il commence à réfléchir plus loin. C'est ça que l'Égyptien a fait. J'aime beaucoup ce chapitre 8. En plus, c'est un travail complet. L'eau, qu'est-ce qui me gêne d'aller faire le baptême? Magnifique.
Nous avons vu le thème, c'est donc comment Dieu travaille dans les cœurs, notamment pour la repentance. Mais dans tous ces versets qui parlent de repentance, on ne voit pas le côté de Dieu. Nous parlons de ça en étant sauvés, en connaissant un peu la parole, et nous savons donc que Dieu travaille dans les cœurs. Mais tous ces versets, repentez-vous, sont adressés à des incrédules qui ne connaissent pas Dieu, ou en tout cas qui ne le connaissent pas bien. Donc, quand il est parlé de repentance, l'accent est, je pense, quand même mis surtout sur la responsabilité de l'homme. Parce qu'on pourrait aussi à ce moment-là dire, oui, mais il y a d'autres versets qui nous disent que nous avons été prédestinés, nous avons été élus, nous avons été choisis. Mais la repentance, ben, j'ai rien à faire. Le jour où, ben, je serai sauvé. Mais non, on voit là, et ce sont des sujets qui sont tellement grands qu'on arrive difficilement à comprendre, parce qu'il y a ce côté de l'homme, il y a notre responsabilité que nous ne devons pas laisser de côté. Et puis nous savons que derrière il y a Dieu. Mais voilà, il y a, en effet, comme cela a été dit, parler de se repentir. Combien c'est important. Et c'est la responsabilité de chacun. Dieu me parle. Et dans tous ces passages, Dieu parlait aux personnes, repentez-vous. C'est la responsabilité de l'homme. C'est moi qui dois accepter. Il y a ce verset dans 2 Pierre qui nous dit que Dieu veut que tous les hommes viennent à la repentance. C'est son désir. Mais on voit là le côté de l'homme. C'est l'homme qui doit faire le choix. Et c'est une fois que nous sommes venus à la repentance, à la conversion, qu'après nous comprenons que Dieu était là, à l'œuvre, dans nos cœurs, et que même son amour datait d'avant la fondation du monde. Et cela doit remplir nos cœurs de reconnaissance.
Comme Marc vient de le dire, il y a donc l'œuvre de Dieu aussi. Il faut jamais oublier qu'il y a là derrière l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qu'on voit déjà dans Acte 17, quand c'est dit, Dieu ordonne. C'est comme un ordre de Dieu. Dieu, il a créé l'homme dans son image. Il veut avoir une relation avec cet homme. Et maintenant, l'homme, il s'est éloigné de lui. Alors, il veut qu'on revienne en contact avec lui, comme on le voit dans l'histoire du fils prodigue. Le père, il attend, il veut que le fils revienne. Alors maintenant, il ordonne. Mais l'autre verset qu'on a vu aussi, c'était donc que Dieu, maintenant, c'est la bonté de Dieu qui l'a conduit à la repentance. Alors là aussi, on voit encore que Dieu est là derrière, c'est la bonté de Dieu. Il n'a pas tout de suite jugé. Mais il a encore donné, dans sa grâce, il a donné cette bonté qui nous conduit, qui nous a conduit. C'était, même si nous on dit, on s'est reconnu, mais c'est quand même la bonté de Dieu qui nous a mis dans cette lumière, qui nous a fait reconnaître qu'on était pécheurs, qui nous a dit, voilà, je suis perdu, je ne peux rien de moi, c'est que lui qui a tous les droits sur moi, qui veut que je revienne chez lui. C'est l'œuvre de Dieu qui nous amène à cette repentance.
Oui, tout à fait. Je crois que ces deux lignes, nous allons les rencontrer plusieurs fois aujourd'hui. La responsabilité de l'homme et la souveraineté de Dieu. Deux côtés qu'il faut contempler séparément, les accepter séparément, sans chercher à sans même penser de devoir réconcilier. Nous n'avons pas besoin de réconcilier des vérités, mais juste de les accepter. Bon. Je voulais rajouter deux points. Le premier, c'est la différence entre la repentance et le regret. Et j'aimerais lire dans 2 Corinthiens, chapitre 7, c'est un verset qui montre très clairement le caractère de la repentance. Le contexte est bien sûr une assemblée, mais c'est un principe général. 2 Corinthiens 7, 10, verset 10, « Car la tristesse qui est selon Dieu opère une repentance à salut. » Une tristesse qui est selon Dieu. Alors c'est ce constat de mon état et de mes actes. Le résultat, c'est le salut. En contraste avec cela, et là, il est ajouté encore, dont on n'a pas de regret. Maintenant, en contraste avec cela, mais la tristesse du monde opère la mort. Nous trouvons plusieurs exemples dans l'Écriture, le roi Saül, par exemple, aussi Judas. Là, on avait un regret. Et c'est un regret surtout des conséquences. Une fois qu'on se rend compte des conséquences, on regrette l'acte commis. Mais ça, ce n'est pas la repentance. La repentance, c'est le jugement, même sur mon état, qui m'a amené à commettre cet acte. Alors, les fruits sont merveilleux, mais la repentance en soi est quelque chose que la chair n'aime pas. Et à cause de cela, je ne suis pas surpris, c'est mon deuxième point, que Paul dit, il a insisté sur la repentance. Nous venons de lire Acte 20, verset 21, insistant et auprès des Juifs et auprès des Grecs sur la repentance envers Dieu. Même aujourd'hui, ou peut-être surtout aujourd'hui, il y a des vents qui courent. Je me souviens d'un livre qu'on m'avait recommandé il y a peut-être un an, par un auteur américain qui suggère, et c'est le titre très connu de ce livre, « On devient ce qu'on adore ». Alors il dit, si on adore ce qui est mauvais, on devient mauvais, si on adore ce qui est bon, on devient bon. Sans parler de la repentance. Il a des justifications, bien sûr. Il dit, Romains 1, ça montre que les nations qui ont adoré ce qui est mauvais, cela a amené à une dégradation. Et 2 Corinthiens 3, nous sommes changés. Mais il omet la repentance. Il omet même la nouvelle naissance. Et cela, c'est un évangile, on peut dire, bon marché. Un évangile qui n'est pas un évangile, selon Galates 1. Alors, je dis cela comme encouragement, selon Acte 20, 21, Paul a insisté aussi sur ce point, la repentance. Si c'était pour les Juifs ou les Grecs, il a insisté là-dessus, et cela peut nous encourager à tenir ferme à un évangile complet dont la repentance fait aussi partie.
On peut peut-être ajouter juste ce verset de Luc 24, ce que le Seigneur a dit, au verset 47. Je commence au verset 46. Et il leur dit, il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que le Christ souffrît et qu'il ressuscita d'entre les morts, et le troisième jour, et que la repentance et la rémission des péchés fussent prêchées en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Il y a quelque chose de plus que la repentance dans l'Ancien Testament. On voit Ninive, On voit aussi Jean le Baptiseur, c'est avant que la grâce et la bonté soient données à salut. Et ici, il y a la repentance et la rémission des péchés qui sont ensemble. La rémission des péchés, c'est quelque chose par la grâce qui est nouveau à partir de ce moment-là.
Un simple mot en reprenant le passage que notre frère Pierre-Étienne a lu. Il leur dit, il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que le Christ souffrît et qu'il ressuscitât d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance et la rémission des péchés fussent prêchées en son nom à toutes les nations. Si nous tournons quelques pages dans l'évangile de Jean, chapitre 16, au chapitre 16 et au verset, on peut lire à partir du verset 7, « Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que moi, je m'en aille, car si je m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand celui-ci sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement, de péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je m'en vais au Père et parce que vous ne me voyez plus, de jugement parce que le chef de ce monde est jugé. Il fallait donc que l'œuvre de Christ soit accomplie, qu'il soit mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, et il est maintenant assis à la droite de la majesté, pour que la repentance puisse être annoncée à tous. Et il est remarquable que dans les passages que nous avons lus dans le livre des Actes, acte 2, acte 3, acte 8 aussi avec l'Éthiopien. Qu'est-ce qui a été présenté aux âmes? L'apôtre Pierre n'a pas commencé à faire un grand discours sur ce qu'était le peuple ou des promesses, non. Il a présenté Christ aux âmes. Philippe, à l'Éthiopien, il a parlé de Christ. Et il est remarquable que quand Pierre, dans l'évangile de Luc, nous n'avons pas lu ce passage, nous avons lu plus loin au chapitre 5, mais au début du chapitre 5, Simon-Pierre se trouve devant qui? Devant le Seigneur. Le Seigneur va accomplir un miracle, mais il se trouve devant la grandeur, devant la majesté du Seigneur. Et que fait-il? Il se jette à ses pieds. Il se jette à ses pieds. « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Et voilà ce qui amène les âmes à réaliser leur état de culpabilité. C'est de présenter Christ aux âmes perdues. Et le Saint-Esprit est là, il convainc, c'est lui qui convainc, c'est le côté de Dieu. Mais présenter aux âmes la personne de Christ, ce qu'il est. On n'a pas besoin de commencer à déclarer tout ce que le monde est en lui-même. Le monde, il est perdu, il est coupable. Mais pour ce monde, Dieu a donné son Fils, mort, ressuscité, assis à la droite de la majesté. Et voilà ce qui amène les âmes à la vraie repentance. Non pas, cela a déjà été soulevé, un repentir. Repentir, il y a des repentis, il y en a partout sur cette terre, des repentis. Mais ils n'ont jamais eu affaire à Dieu. Il y a eu un regret, comme notre frère le faisait remarquer, du regret, mais ça n'a jamais été plus loin. Mais la seule vraie repentance, c'est de venir aux pieds. Pierre, il s'est jeté aux pieds du Seigneur. reconnaissant que je suis un homme pécheur. Et voilà ce qui va toucher les âmes pour les amener à Christ, c'est de présenter Christ aux âmes.
Nous avons encore un passage intéressant dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, à partir du verset 37. On voit avant donc Pierre s'adresse aux Juifs, il reçoit le Saint-Esprit, il s'adresse, il parle du Seigneur Jésus qui a été crucifié, du Seigneur Jésus qui a été ressuscité. Et puis nous lisons verset 37, et ayant dit ces choses, ils eurent le cœur saisi de compunction, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous, frères? Et Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ensuite au verset 40, et par plusieurs autres paroles, il conjurait et exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux donc qui reçurent sa parole furent baptisés. On voit ici plusieurs aspects. Voilà, l'évangile est présenté, comme cela vient d'être dit, le Seigneur mis à mort, le Seigneur ressuscité, et puis ils furent saisis de compunction, c'est-à-dire ils ont été vivement touchés. Et que devons-nous faire? Alors voilà, repentez-vous, soyez baptisés, vous recevrez le don du Saint-Esprit, on en parlera plus tard. Et puis on voit encore que il est dit que il conjurait et exhortait. Il y a un travail qui est fait par ceux qui annoncent la parole. On voit ce travail exhorter, conjurer, et puis il y a ceux qui croient. On voit là les différents aspects. Et on voit ici qu'il y avait ces cœurs saisis de compunction, d'avoir cette grande tristesse d'être touchés par le message. On l'a dit, la repentance, ce n'est pas que des regrets, ce n'est pas des remords non plus. Nous avons l'exemple de Judas qui, après avoir livré le Seigneur, a eu du remords. Mais un ou deux versets après, il s'en va pour se pendre.
Nous avons donc vu que la repentance, c'est un travail de Dieu dans l'âme, dans le cœur de l'homme, et l'homme commence à penser différemment. Changement d'avis, changement de pensée relatif à Dieu et relatif à nous. Mais ce travail de Dieu intérieur n'est pas un travail caché, parce que on en voit des résultats. Et j'aimerais brièvement parler des résultats. Nous avons lu ce verset dans les Actes des Apôtres, chapitre 26, où l'apôtre Paul dit « Il faut se repentir et de se tourner vers Dieu en faisant des œuvres convenables à la repentance. » C'est aussi une considération assez importante. Et Jean le baptiseur, il dit, ces mots bien connus, Matthieu 3, verset 8, « Produisez donc du fruit qui convienne à la repentance. » Est-ce qu'on peut voir la repentance? C'est un travail de Dieu dans le cœur, mais quand même on peut voir les résultats, les effets des œuvres convenables à la repentance. Et c'est quand même une question pratique qui se pose aussi à chacun de nous aujourd'hui dans ma vie. Est-ce qu'on peut voir des œuvres convenables à la repentance? Est-ce que Dieu peut voir ces œuvres? Est-ce que nos frères et sœurs peuvent voir ces œuvres, ces résultats, et aussi le monde autour de nous? Est-ce qu'on peut voir, voilà, c'est quelqu'un qui porte des fruits, des œuvres convenables à la repentance? Je crois qu'il est aussi utile de parler un peu de la conversion, n'est-ce pas? Nous avons ces deux termes ce matin, la repentance et la conversion. Et ces deux sont comme des jumeaux siamois, n'est-ce pas? Nous avons lu ces deux passages en acte 3 et en acte 26, où les deux sont liés étroitement, repentance et conversion. Et il est vrai, ces deux appartiennent ensemble. On ne peut pas les séparer. Pour qu'on obtienne le salut de Dieu, il faut la repentance et il faut la conversion. Et quelle est la différence? La repentance, c'est un travail de Dieu dans le cœur, dans l'âme. La conversion, c'est une œuvre de Dieu avec nos pieds. On change le chemin. Repentance, on change d'avis, on change les pensées. Mais la conversion, on change le chemin. On fait demi-tour. D'abord, on est allé cette direction. Maintenant, on va cette direction. Tourner vers Dieu, ça c'est la conversion. Nous avons déjà parlé du fils prodigue, Luc 15. Et cette histoire nous donne une illustration de ce que c'est la repentance. J'ai péché et je ne suis plus digne. C'est repentance. Mais il est revenu à lui-même, repentance. Mais alors il dit, je me lèverai et je m'en irai vers mon Père. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et se levant, il vint vers son Père avec ses pieds. Il est retourné. Ça, c'est conversion, retourner, faire demi-tour, un nouveau chemin, nouvelle direction. Alors, ces deux, des jumeaux, repentance, le cœur, la conversion, les pieds. Combien c'est important que Dieu nous donne ces deux expressions.
Et on peut lire en Jérémie 31, Jérémie, prophète Jérémie 31, verset 19, « Car après que j'ai été converti, je me suis repenti. » Il s'agit de, bien sûr, la repentance là, en rapport avec le Israël. Mais il y a donc un lien indissoluble entre repentance et conversion. Le demi-tour et la condamnation de son état de péché sont liés.
Donc dans ces différents passages qui ont été devant nous, on a vu, on a beaucoup insisté sur l'aspect de la repentance. On a vu aussi que c'était très lié avec la conversion. Et on peut se demander justement, mais dans quel ordre est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est d'abord la repentance, ensuite la conversion ou le contraire? Je pense qu'il faut pas vouloir faire un schéma trop précis, trop détaillé, parce que on l'a rappelé aussi, les conversions, pour prendre un mot général, sont toutes différentes. Il y a un chemin pour chacun, suivant ses circonstances, l'état dans lequel Dieu l'a trouvé. Et on a déjà souligné que le chemin ou la conversion du fils prodigue, c'est pas exactement le même que celui de l'eunuque éthiopien ou que la conversion de l'apôtre Paul. Circonstances et l'état initial des personnes étaient différentes et donc on n'a pas cherché à faire un processus trop détaillé ou trop uniforme. Et la parole même, effectivement, le dernier passage qui vient d'être cité le montre, le cite pas toujours dans le même ordre. On a vu plusieurs passages, c'est d'abord la repentance, ensuite la conversion. Et puis dans Jérémie, on voit après que j'ai été converti, je me suis repenti. Et peut-être qu'on peut revenir encore une fois à Luc 15 et rappeler ce qu'avait dit notre frère dans sa la première intervention, notre frère Ernst August, et parler de la repentance, la conversion et aussi la confession. Et ces choses sont très liées aussi, la confession souvent indissolublement liée avec la repentance. La repentance conduit à la confession de ce qu'on a fait et à la conversion, c'est-à-dire au changement de chemin. Mais l'ordre n'est pas peut-être toujours le même. Mais dans Luc 15, on a un exemple simplement de ce qui s'est passé pour le fils prodigue. Et effectivement, peut-être on peut illustrer de cette manière-là. Déjà au verset 17, c'est cette première étape, il revient à lui-même et il effectivement considère son état et en tire les conclusions, pas seulement pour regretter les conséquences, mais comme on l'a dit, mais pour vraiment réaliser qu'il avait péché contre le ciel, contre son père, il le dit déjà à ce moment-là. Puis il décide de se lever, de revenir. Et deuxième étape, effectivement, dans son cas, c'est la conversion à la fin du verset 20, du début du verset 20 plutôt. Et se levant, il vint vers son père. C'est ce changement de chemin, ce demi-tour dont on a parlé. Et puis alors, une fois arrivé devant son père, alors il dit ce qu'il avait prévu de dire. Et le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » On peut dire là, c'est cette étape importante de la confession. Confession de ses péchés, de ce qu'il avait fait, et de ce travail qui avait été opéré dans son cœur, effectivement, et qu'il confesse publiquement. Donc, ce n'est qu'un exemple, mais c'est important qu'il y ait toutes ces étapes, même si elles peuvent avoir lieu dans un ordre différent. Et dans certains cas, je pense en particulier peut-être des enfants qui se convertissent assez jeunes, la confession peut être bien plus tard que la conversion, que la nouvelle naissance. On reviendra sur la nouvelle naissance, je pense, mais la vraie confession peut avoir lieu plus tard, quand on a vraiment réaliser ce qu'on était, ce qu'on avait fait. Mais ce sont des points importants qui sont parfois chronologiquement très rapprochés, d'autres fois peut-être plus espacés, mais qui sont tous importants pour que le travail de Dieu soit vraiment fait et que les résultats, effectivement, ensuite en soient visibles.
Une petite attention sur la traduction de ce passage de Jérémie 31, verset 19. Le mot converti est utilisé en français, en anglais et en allemand. Ce sont des mots différents. Le mot allemand, c'est Umkehr et c'est returned en anglais. Alors, nous avons des notes au verset 18. La note pour conversion, c'est la note F. Il est mis, c'est la note E, donc au verset 18, « Convertis-moi et je serai converti. » Et la note E nous dit, « Ou comme ailleurs, fais-moi revenir et je reviendrai. » Donc, voilà le sens probablement du mot hébreu, au vu des autres traductions. Il faut être prudent pour ne prendre que ce seul verset, à mon sens, qui donne cette indication que la conversion est avant la repentance. Il y en a peut-être d'autres, mais j'ai cherché, je n'en ai pas trouvé.
En fait, le mot pour se repentir dans le Nouveau Testament, est utilisé assez souvent, disons plus de 30 fois dans le Nouveau Testament, mais ce n'est pas toujours traduit par se repentir. Des fois, c'est dans un sens physique. Par exemple, Apocalypse 1, Jean se tourne parce qu'il a entendu une voix derrière lui. Alors, c'est ce sens de se convertir. On vient de parler de cela, le changement de direction dans le sens opposé. J'aimerais ajouter encore un point, et c'est que la conversion est de quelque chose et à quelque chose ou quelqu'un. Deux exemples. D'abord, dans Actes 14, verset 15. Actes 14, verset 15. Paul, en Asie mineure, qui dit « Homme, pourquoi vous faites ces choses ?» Et puis, au milieu du verset, « Nous vous annonçons que de ces choses vaines, alors ces idoles, vous vous tourniez, c'est ce mot, se convertir, vers le Dieu vivant. » Cela montre le changement. D'abord, les choses vaines, les idoles, et maintenant, ces païens peuvent se tourner de ces choses vers le Dieu vivant. Deuxième exemple est très connu. Je mentionne seulement 1 Thessaloniciens 1, verset 9, où Paul dit « Car eux-mêmes racontent de nous quelle entrée nous avons eue auprès de vous et comment vous vous êtes tourné. » Là, encore une fois, on a ce mot « se convertir ». Vous vous êtes tourné des idoles vers Dieu. Encore une fois, très clairement, ce contraste, d'abord les idoles, maintenant vers Dieu.
Deux exemples d'une conversion biblique qui sont très instructifs. L'apôtre Paul, devant les Moïs de Damas, il a trouvé Dieu, il a fait repentance et la conversion. Et qu'est-ce qu'il dit, Philippiens 3? Là, il parle de ce moment, verset 7, de sa conversion. « Mais les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause du Christ comme une perte. » Voilà le motif de la conversion de l'apôtre Paul. Gagner Christ. Et dans ce passage, il parle plusieurs fois du Seigneur Jésus, de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus. C'était le motif pour Paul de tourner vers Dieu. Et le deuxième exemple, c'est l'exemple que Michael a déjà mentionné, 1 Thessaloniciens 1. Et là, nous voyons de nouveau des résultats pratiques. Vous vous êtes tourné des idoles vers Dieu. Pourquoi? Pour être sauvé? Bien sûr. Bien sûr, pour être sauvé. Il faut la conversion, la repentance pour être sauvé. Mais ici, l'effet de nouveau est un effet pratique, une conséquence pratique. Vous vous êtes tourné des idoles vers Dieu. Pourquoi? Pour servir Dieu, le Dieu vivant et vrai, et pour atteindre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts. Voilà, de nouveau des résultats pratiques. Nous avons changé la direction. Nous étions dans les ténèbres et maintenant nous sommes dans la lumière. Mais pourquoi? Pour servir Dieu. C'est très pratique, n'est-ce pas? Pour servir Dieu. Nous sommes ici, sur la terre, des hommes convertis, des chrétiens, ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus, pour servir Dieu. Ça signifie ici pour être à la disposition de Dieu journalièrement. Et deuxièmement, n'oublions jamais, le Seigneur Jésus, il vient bientôt. Et pour attendre des fils des cieux, son Fils, non pas pour savoir qu'il vient. Nous avons la connaissance du retour du Seigneur Jésus, mais ici il n'est pas question de la connaissance, mais pour vraiment
attendre le Seigneur Jésus, servir journalièrement et attendre journalièrement ceux qui ont changé la pensée, ceux qui ont changé la direction, la manière de vivre. Maintenant, nous pouvons servir Dieu et attendre le Fils de Dieu qui vient bientôt.